France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On dit qu'au XVIe siècle, l'empereur Rodolphe II contempla 2 heures durant un tableau figurant des poissons. Il était émerveillé par le talent de l'artiste à imiter la nature. Mais on dit aussi qu'il n'aurait pas consacré 2 minutes de son temps à regarder de vrais poissons à l'étal d'un marché. Ce paradoxe de la représentation, Arcimboldo lui fit voir en composant son portrait par un amas proportionné de fleurs, de fruits et de légumes. On oublia le peintre milanais jusqu'à ce que les surréalistes le redécouvrent, s'enthousiasmant de cette figuration joyeuse de l'éparpillement du moi dans la saveur des choses. Dans un texte célèbre, Roland Barthes avait reconnu dans cette énergie des déplacements la force de la rhétorique. Et l'on peut se demander comment on regarderait Arcimboldo aujourd'hui si les poètes n'en avaient point parlé. Mais pourquoi s'attarder dans les musées quand s'ouvrent les fleurs et pointe le printemps? On ne serait pas mieux dehors, franchement, au milieu des choses de la nature? C'est de tout cela dont on va parler aujourd'hui avec nos invités, Jeannette Wingenberger, Philippe Malguir et Marion Grébert, d'émerveillement et de curiosité, d'imitation et de composition, à l'écoute de ce que disent les fleurs chez Arcimboldo. Et puis, n'oublions pas, c'est le printemps, et la joie qu'il nous procure nous ramène inévitablement à l'enfance. Cette enfance qui, lorsqu'elle passe 1 minute au musée du Louvre, dit cela.
Nous voici devant les 4 saisons.
4 saisons ? Mais ce sont des gens.
Ah, mais vous avez vu ?
C'est ce qui s'appelle un trompe-l'œil.
Ah oui, de loin c'est des portraits, de près c'est des fruits, plein de trucs de la nature.
Cette belle jeune fille faite en fleurs représente le printemps.
Et lui, le multicolore, c'est l'été. Une joue en pêche, des lèvres en cerise. Ah, je le mangerai bien, moi, l'été.
Alors celui-là, c'est forcément l'automne. Ça va du plus jeune au plus vieux pour mieux représenter le cycle des saisons.
Oui, l'hiver est un vieux monsieur en bois tout sec, tout triste.
Le peintre a écrit son nom directement sur la toile. Arcimboldo, peintre italien, très connu pour justement les trompe-l'œil.
Et il a aussi réalisé des tableaux réversibles qui peuvent se lire dans les deux sens.
C'est renversant comme information.
Et il y a même la date, 1573.
Oh, alors il est mort, le peintre. Dommage. Je voulais lui demander de faire mon portrait avec des joues en gâteau, des cheveux en réglisse, des dents...
Chocolat. Toute noire, toute carriée, pour plus de réalisme.
Jeannette Wingenberger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, de ses transformations, de ses anamorphoses. Vous avez notamment publié sur Hansel Bein le Jeune, sur Léonard de Vinci. Vous avez été commissaire de l'exposition du Grand Palais en 2009. Une image peut en cacher une autre, Arcimboldo, Dali, Retz. Et plus récemment, vous avez collaboré au catalogue de l'exposition du Centre Pompidou Metz face à Arcimboldo. Vous avez dit, c'est un visionnaire, c'est un précurseur, c'est ça?
Oui, par exemple, la Flora, dont je voudrais parler, c'est une de ses dernières œuvres qu'il a peint en 1591. Ce sont des portraits composés, donc de 80 fleurs, grandeur nature. Alors, il y a 2 lectures, une vision immédiate, c'est-à-dire on découvre un portrait, et puis le rapprochement, c'est un déchiffrement successif des fleurs.
On va parler de tout ça. Bonjour Philippe Malguir.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, spécialiste de la matérialité des œuvres. Vous avez travaillé sur les ivoires, les bronzes, les pierres gravées, les camées et intailles. Et vous êtes conservateur général du patrimoine au musée du Louvre, où se tient actuellement et jusqu'au 30 juin une exposition dont vous êtes le commissaire, l'expérience de la nature, les arts à Prague à la cour de Rodolphe II. Et de cette cour, vous avez aussi tiré une galerie de portraits de savants, d'artistes que vous décrivez dans un livre qui vient de paraître. paraître aux éditions Mare Martin sous le titre « La science de l'émerveillement ». Pour vous, c'est ça, cette curiosité, c'est pas le bizarre, c'est pas l'étrange, c'est bien les merveilles de la nature qu'on doit observer et décrire.
C'est ce que les artistes et les savants vont apprendre à faire, c'est de regarder autour d'eux et de voir l'immense valeur heuristique de l'observation, de la simple observation qui permet de contredire des choses affirmées depuis l'Antiquité. Et ce mot de curieux, de curiosité, on doit revenir dessus.
On va y revenir.
Curia, c'est celui qui a soin, qui est attentif.
À cœur d'eux, oui, bien sûr.
Qui a à cœur d'eux.
Et c'est pas le cabinet de curiosité que l'on croit. Bonjour Marion Grébert.
Bonjour.
Vous aussi, vous venez de publier un très beau livre aux éditions L'Atelier Contemporain. Pourquoi les fleurs? Voilà une question. Un autre voyage en Italie. C'est une promenade sensible et conceptuelle de la Rome antique à celle de Pasolini, issue de votre séjour à la Villa Médicis, où vous poursuiviez votre travail à la fois théorique et pratique sur l'art, à partir notamment de la photographie, qui consiste, selon le titre de votre premier livre, également publié à l'Atelier Contemporain, à traverser l'invisible. Avec Archimboldo, on est apparemment dans la matérialité, dans le visible, mais justement, ce que vous allez chercher, c'est ces fleurs, d'une certaine manière, c'est une fausse évidence. Pourquoi les fleurs? On croit les aimer, on croit les trouver belles, mais il y a des raisons.
En effet, le titre du livre « Pourquoi les fleurs » interroge la fausse évidence de notre relation aux fleurs. C'est une formule qui est tirée d'un cours au Collège de France de Roland Barthes en 76-77. Un cours qui s'intitulait « Comment vivre ensemble ?» et il y parle à un endroit de la nécessité, selon lui, d'ouvrir et de poser un dossier des fleurs.
Alors le dossier des fleurs, on va le poser justement à partir d'un premier portrait. Commençons presque par la fin, Philippe Malguir, c'est-à-dire le « Vertum ne ». C'est un portrait de Rodolphe II, mais au moment où Archimboldo s'en est éloigné de la cour de Rodolphe II. Est-ce qu'on pourrait déjà le décrire?
Alors c'est une œuvre d'abord qui est une sorte de testament d'Archimboldo et qui dépasse toutes les têtes de fantaisie qu'il a faites auparavant, puisqu'il s'agit d'un portrait pour la première fois. Et cette œuvre ultime a été envoyée dans la vieillesse du peintre depuis 1000 ans, puisqu'il ne séjournait plus à la cour impériale. Ça ressemble assez à ce qu'on voit sur l'étal de mon marchand de légumes, qui a un sens esthétique très développé, qui aime empiler les choses les unes sur les autres. Des légumes qui sont peut-être aujourd'hui vus comme des choses précieuses, vu leur coût, mais qui, en fait, à l'époque, sont des choses éminemment vulgaires qu'on mange à peine, en fait. Les légumes ne se mangent pas, disparaissent dans les préparations culinaires. Il faut vraiment repenser la profonde vulgarité, dans le sens commun, de tout ce qu'on voit, donc des courgettes, des concombres, des potirons, des navets, des oignons. Donc, évidemment, il y a aussi des cerises, des roses, des... Oui, chose plus noble.
Le nez est en forme de poire.
Mais le nez est une grosse poire.
Il y a une joue qui est une pomme, l'autre qui est une pêche. Il y a un œil qui est une cerise, l'autre une mûre.
Et puis sûrement quelques clins d'œil aussi linguistiques. Par exemple, il a la barbe hérissée faite de châtaigne, castagne, qui est la couleur de ses cheveux châtains qui sont décrits comme ça. Donc il y a tous ces jeux aussi d'association un peu factice de la joue comme un fruit, etc., qu'il retourne d'une manière burlesque et même assez irrévérencieuse en fait.
Et puis des fleurs, Marion Grébert. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, on va y revenir, c'est que vous dites d'une certaine manière, les fleurs ne sont pas faites pour être nommées. Il n'est pas évident que le peintre souhaite, et ça, vous le montrez dès vos premières promenades dans les fresques romaines, il n'est pas évident que le peintre souhaite être naturaliste strictement et décrire des fleurs existantes. Donc, ce collier, c'est le collier de printemps, comment vous le voyez ?
Je crois que on peut en effet avoir la tentation devant les œuvres picturales composées de beaucoup de fleurs de vouloir faire l'inventaire des espèces que l'on voit. Et ce que je montre dans le livre, ce dont je parle, c'est que le plaisir qui est pris aux fleurs n'est sans doute pas nominal, mais formel. Et c'est ce que défend un historien de l'art allemand, Wilhelm Voringer, par exemple, dans son ouvrage « Abstraction et Einfühlung », dans lequel il dit que, en effet, ce qui intéresse les peintres, ce n'est pas un savoir naturaliste ou botanique, mais plutôt la loi abstraite qui régit les formes des fleurs.
Jeannette Zwingenberger, ce qui est intéressant dans ce premier portrait, on va en voir d'autres, hein, bien sûr, d'Archimboldo, c'est que d'abord, contrairement à l'idée qu'on peut se faire des grotesques, en fait, il s'agit moins d'anamorphose ou de métamorphose que de composition, d'ajustement proportionné, puisque d'une certaine manière, chaque fruit, chaque légume est à sa juste place et à sa proportion. Et au fond, vous montrez dans vos travaux que le sens de l'œuvre, il se saisit par le mouvement même du spectateur qui peut s'approcher et s'éloigner du tableau.
Oui, en fait, ce que j'ai dit, enfin, il y a une vision immédiate, l'image, et puis lorsqu'on se rapproche, la lecture successive. C'est-à-dire d'énumérer toutes ces espèces. Et comme vous avez dit, c'est très étonnant, par exemple, les poissons qui sont rassemblés, qui coexistent, ce qui ne sera pas le cas dans la nature.
Bien sûr.
Et sans hiérarchie, c'est-à-dire un ensemble. Et pour moi, il faut faire le lien justement avec cette époque, le nouveau monde, c'est-à-dire Vertum. Il y a un épi de maïs, le maïs du Mexique, aubergine du Proche-Orient, des fruits qu'on découvre. Donc, on est dans une époque de découverte du nouveau monde, des nouvelles espèces. Et que justement, Maximilien II, Rudolphe II, dans leur jardin zoologique ou botanique, réunissent tous ces merveilles.
Il y a l'émerveillement devant l'élargissement du monde, l'inventaire de ces diversités, mais il y a aussi ce que vous appeliez cette vulgarité, Philippe Malguir, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui est donné à voir là, c'est le monde à portée de main. C'est-à-dire celui que chacune et chacun peut saisir au marché, justement. Et vous insistez plutôt sur cette idée que on observe ce qui est là, ce qui est devant nous.
Mais c'est un immense retournement du paradigme de l'art depuis très longtemps, puisque ce n'est pas la chose observée qui est digne d'observation en elle-même, c'est ce que l'artiste choisit de montrer.
Oui.
Et c'est l'artiste qui informe le monde, en fait, et qui nous dit, vous n'avez jamais regardé toutes ces choses, mais moi, je les regarde, et j'en fais...
Pour la première fois.
Pour la première fois.
Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, pour saisir ce qu'a fait Archimboldo, il faut, comme souvent d'ailleurs, le comprendre, regarder par les artistes contemporains. Écoutez ce reportage, c'était sur France 3 en 2017, l'artiste américain Philippe Haas, au château des Baux-de-Provence, avait installé des géants d'Archimboldo, et ça nous donne à voir et à comprendre justement cette question de proportion chez Archimboldo.
Ils sont très grands, géants. 5 mètres de haut. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Ce matin-là, la plupart des visiteurs étaient surpris.
On est tombé dessus, par hasard. Mais oui, bonne surprise, c'est bien fait, c'est joli.
Peut-être certains plus jolis que d'autres, mais ça c'est très personnel, c'est très subjectif, donc on peut pas... Mais c'est curieux en tout cas.
Ce qui m'impressionne, c'est les sculptures, enfin tout du moins, parce qu'en fait c'est des fruits, ça représente des fruits. Hein. Donc les courgettes, les courges, les raisins, donc c'est merveilleux.
Les installations de l'américain Philippe Haas. Il revisite les œuvres du peintre italien Archimboldo. Au château des Baux-de-Provence, l'arrivée de ces portraits monumentaux installe une nouvelle offre.
Il devait y avoir là où on est, à peu près un jardin potager qui servait à faire les simples, à faire les remèdes, à faire ne serait-ce que nourrir les habitants. Mettre 4 saisons dans ce potager, c'est une bonne idée, il y a une vraie cohérence et c'est un appel au jardin. On peut aussi travailler sur des côtés paysagers, sur des côtés d'art contemporain. Donc effectivement, le château des Baux est appelé par la suite à évoluer vers une politique plus culturelle, très qualitative et de très bon niveau.
Les 4 saisons passeront l'été sur le plateau rocheux au gré des vents violents et de la chaleur brûlante.
Archimboldo peint pour Rodolphe II. On peut se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir de flatteur pour un souverain à se voir représenter ainsi le nez en poire. Et pourtant, évidemment, Vertumné, c'est le dieu de la nature, de ses transformations. Et donc, il y a d'une certaine manière, Philippe Malguir, un panégyrique impérial, paradoxal, qui est ici donné à voir.
Alors, on a beaucoup voulu interpréter ce portrait dans un sens de l'abondance, de la prospérité du règne, un peu cosmique. Je me demande si c'est bien vrai, parce que d'abord, ce portrait n'a jamais été gravé.
Oui.
On n'a aucune trace de sa réception possible à l'époque où il a été peint. Et je voudrais rappeler une chose que je n'ai pas écrite, mais qui frappe beaucoup, c'est que ce Vertumne, dans son iconographie antique, sous son tablier plein de fruits et de légumes, il montre son sexe en érection. Donc c'est une sorte de dieu priapique. Et ça, c'est vraiment une obsession des hommes de la deuxième moitié du XIIIe siècle. C'est toutes ces forces génésiques de la nature, incarnées par ces divinités antiques, qui pour eux sont autant d'allégories de ces principes qu'ils essayent d'identifier dans la surabondance des phénomènes vivants.
Oui, il y avait eu une exposition à Venise en 1987 qui s'appelait « L'effet Archimboldo », qui avait été très importante, et dans le catalogue de laquelle Philippe Morel avait posé cette question. La question qui se pose est de savoir si les compositions d'Archimboldo sont un panégyrique impérial ou si elles le deviennent à travers le filtre exégétique du poème offert à l'empereur comme accompagnement des tableaux. Parce que, effectivement, Jeannette Zwingenberger, d'une certaine manière, on lit aussi ces tableaux au filtre des poèmes qu'ils ont suscités et qui peut-être un peu orientent notre regard.
Oui, c'est-à-dire, je vais le citer, c'est Gregorio Comanini qui donne la parole au Vertumne. Qui que tu sois qui regarde mon image difforme et étrange, le rire aux lèvres, les yeux moqueurs, le visage empreint d'une allégresse soudain à la vue de ce monstre nouveau. En me regardant ainsi point, étant de la laideur qui fait beau, il revendique sa monstruosité. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans une esthétique de paradoxe. C'est-à-dire, sous quoi repose cette idée de laideur? Pour moi, je trouve les fleurs, tout ça, je trouve ça d'une très grande beauté. Pour moi, c'est une ode à la nature.
Philippe Malgouir.
Mais c'est exactement ça. C'est de plus loin, Comanini rappelle l'anecdote, disons, transmise par Érasme du banquet de Platon, de la remarque d'Alcibiade qui dit que Socrate, sous son allure de Silène, donc cette allure Silène, c'est comme Priape, c'est comme Pan, c'est la laideur et les forces génésiques de la nature, cache une âme divine. Et donc il dit c'est un Silène, au sens d'Érasme, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît vulgaire, mais qui cache quelque chose de divin, c'est-à-dire l'âme invisible de l'empereur, qu'il fait d'ailleurs parler à la fin de son essai panégyrique, Comanini.
Et puis, il y a les fleurs. Et puis, il y a les fleurs. Et ça, évidemment, c'est la question qu'on peut poser à partir des conférences que donne actuellement au Collège de France Wajdi Mouawad. Vous pouvez les entendre en podcast sur le site du Collège de France le 25 mars 2025. Il parlait des fleurs, Marion Grébert, et j'ai l'impression que la question qu'il posait, ben, d'une certaine manière, il vous la pose à vous. Écoutez.
Tous les poètes ont décrit le mystère des fleurs. À l'instar de Philippe Jacotet, s'exclamant devant les coquelicots, rouge, rouge, tout ce rouge. Nous en faisons l'expérience à chaque printemps. Nul n'est parvenu à comprendre encore la raison pour laquelle il reste ébahi devant la beauté des fleurs. D'une fleur, n'importe laquelle. Parce qu'elles sont belles, dit-on. Mais oui, mais ça ne suffit pas. Et puis toutes ne le sont pas. Mais même les plus communes, pissenlit, pâquerette, marguerite, au moment où on les aperçoit au détour d'une rue, comme ça, par hasard, quelque chose en nous aussitôt se soulève. Toujours, toujours une légère félicité. Qu'est-ce qu'il y a donc dans la fleur qui provoque à chaque fois une émotion aussi bouleversante? Chaque humain a le sentiment, devant le mystère de cette beauté, qu'on est devant le mystère de sa propre existence. Pourquoi c'est si beau? Celui de l'existence de l'univers et celui, plus vertigineux encore, de notre présence dans l'univers. L'abeille, en étant délivrée du poids de détruire pour survivre et en permettant la fécondation des fleurs, se nimbe aussi du mystère des fleurs. Par sa taille, par la simplicité de son rapport au monde, par la suavité de son miel, par la puissance de son action, elle est la prêtresse consolatrice.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Marion Grébert, comme je le disais, la question que pose là Wajdi Mouawad, dramaturge, auteur, va vous tenter d'y répondre dans votre livre « Pourquoi les fleurs ?»
En effet, cet état d'esprit, d'émerveillement devant l'interrogation que suscitent les fleurs a été celui dans lequel j'ai voulu écrire ce livre, notamment depuis Rome, c'est-à-dire au milieu de la grandeur des monuments, remarquer toutes les fleurs sauvages qui poussent dans les brèches des ruines. L'une des intuitions que j'ai eues au cours de ce travail, au cours de ces promenades, c'est que si les fleurs nous interrogent sur le mystère de notre existence, c'est parce qu'elles portent une mémoire extrêmement longue d'un monde duquel nous n'étions pas. Des recherches scientifiques récentes de 2010-2020 ont montré qu'il existait des plantes à fleurs il y a déjà 250 millions d'années, au Trias moyen, c'est-à-dire au Jurassique avant les dinosaures. Et on a également retrouvé des algues il y a plusieurs centaines de millions d'années encore avant, composées d'une protéine qui est encore nécessaire aujourd'hui à la floraison des fleurs que nous connaissons à chaque printemps et que nous connaissons ces jours-ci. Donc, et je crois qu'elle nous renvoie à la petitesse de notre existence face à l'infini de l'univers.
Et à un monde où nous n'étions pas encore.
Un monde où nous n'étions pas.
Et alors vous les trouvez à Rome, vous le dites, dans les interstices des ruines, mais dans également les encoignures des architectures peintes. Par exemple, dans un chapitre qui est consacré à Gentile da Fabriano, ben, où montrer l'or, les matériaux, la richesse, et puis justement, dans les cadres, toute une série de petites fleurs. Et vous dites que... Au fond, ces fleurs, elles désignent, je vous cite, la liberté créatrice de Fabriano, une indifférence de la peinture à ce qui devait forcer le respect dans le monde matériel économique des hommes. La pâquerette n'en a que faire, elle croit à sa manière, elle persévère dans sa pauvreté.
Oui, je crois qu'on l'évoque depuis tout à l'heure à travers Archimboldo, les œuvres que l'on regarde de la Renaissance et de la pré-Renaissance sont le résultat de commandes, c'est-à-dire d'un accord entre un commanditaire puissant, riche, et un peintre avec certaines exigences du commanditaire. Et je crois que les fleurs, à cette période, sont un endroit d'exercice d'une certaine liberté créatrice de l'artiste par rapport aux exigences et aux attentes de son commanditaire, et un endroit mystérieux quant à ses intentions. Et on a généralement pas trace des raisons pour lesquelles un peintre, un artiste a choisi délibérément de peindre telle ou telle fleur, car ce ne sont pas des détails qui figurent dans les contrats écrits ou dessinés, oui, entre le commanditaire et le peintre.
Liberté, mais aussi virtuosité, Philippe Malgouir. C'est-à-dire qu'il y a là, chez Archimboldo, l'étalage de sa... de sa puissance imitatrice, au fond, qui fait que la question qui se pose, notamment à la cour de Rodolphe II, c'est qui doit-on vraiment admirer ? Qui est artiste ? Le peintre ou la nature ?
Eh bien, les deux. Oui. Parce que je pense qu'il y a un vrai désenchantement face au monde, ce n'est pas encore à cette date, contrairement à ce qu'on a parfois prédit, parce qu'à cette date, l'homme est absolument parti de la nature. Et le fait de pouvoir montrer l'empereur sous cette forme, c'est pas seulement un jeu visuel, c'est quelque chose de très profond. La nature, ex ungue leonem, pratiquement, on pouvait la comprendre d'une manière cosmique dans les plus petits détails d'un radis ou d'une pâquerette. Et c'est seulement quand la science va se diviser en petits morceaux qu'on va renoncer à cette compréhension totale et où l'homme, par sa raison, va s'isoler et de son corps et du reste du monde.
Jeannette Nürnberger.
Ça me semble très important ce que vous venez de dire tous les deux, c'est-à-dire que l'être humain à cette époque fait partie encore du macrocosme qu'est l'univers. Et les quatre saisons et les quatre éléments renvoient à cette cosmogonie. C'est-à-dire l'homme s'inscrit et c'est une réflexion sur le cycle de la vie et la mort dont l'homme s'inscrit.
C'est-à-dire c'est la question, on est dans un monde analogique. D'une
oui, certaine manière. Analogique.
Ça, c'est ce que Roland, ouais, Barthes décrivait aussi dans son texte sur Archimboldo.
Mais je veux dire aussi naturaliste, parce que comme on vient de dire, Rodolphe II, enfin d'abord Maximilien II et après Rodolphe II, ils avaient ces jardins botaniques et des zoos et ils réunissaient les merveilles qu'on rapportait du monde entier.
Et Archimboldo, vous le montrez d'ailleurs, c'est le scénographe de toute cette diversité, c'est-à-dire que c'est aussi un peu, je dirais, l'homme à tout faire des cours princières qui, ouais, met en scène cette exubérance.
Cette tâche, c'était le conseil artistique, autant aussi des toutes ces merveilles, des inventaires. Enfin, je trouve que l'œuvre d'Archimboldo reflète cette époque.
Alors, petit point historique tout de même, Philippe Malgouir, là on parle de Rodolphe II, mais on est quand même à la fin de la période, parce que d'une certaine manière, c'est plutôt avec son père et son grand-père que Archimboldo a travaillé.
Oui, il a été recruté par le grand-père, peut-être à l'instigation d'ailleurs du futur Maximilien II, donc père de Rodolphe, et en quelque sorte, il hérite d'Archimboldo. Mais il ne faut pas penser non plus qu'Archimboldo rentre par la très grande porte à la cour de Vienne, puisque les archives montrent qu'il est occupé à des tâches assez vénielles, pour dire le moins. On ne sait pas trop ce qu'il fait d'ailleurs avant d'arriver à Vienne, des tâches pas beaucoup plus nobles pour la cathédrale de Milan. Et donc, il apparaît un petit peu dans ce contexte, mais ce n'est pas pour ça qu'il est choisi. Par contre, Rodolphe, lui, c'est déjà le grand peintre qu'il est.
Allez, on parle et on va parler des quatre saisons. Je crois que vous seriez déçus si on n'entendait pas ça. Vivaldi, bien sûr, le Largo de l'hiver. Donc là, on se retrouve aux quatre saisons, hein, c'est-à-dire ces fameux tableaux qui viennent d'être restaurés, d'ailleurs, et que les enfants de une minute au musée regardaient. Donc l'hiver, c'est l'homme tout sec, mais nous sommes au printemps. Donc regardons le printemps, ce profil, cette fois-ci, Philippe Malgouir. Là, on est... beaucoup plus tôt, hein. On est en 1573, c'est ça? Et qu'est-ce qu'on voit?
Alors, on voit une forme de portrait archaïque, hein, comme on portraiturait en Italie, en tout cas au XVe siècle, c'est-à-dire de profil ou comme sur une médaille. Donc pas quelque chose qui nous observe comme le faisait le Vertum de Rodolphe, mais quelque chose qui est donné à voir. Donc c'est déjà très différent. Et donc c'est un personnage entièrement composé de fleurs, et parfois moins de fleurs que de pétales, hein, comme dans la flore, qui... évidemment, Archimboldo détache l'imitation de l'invention. C'est-à-dire que l'imitation est exacte et l'invention est complète, puisque de cette imitation exacte, il propose une image qui n'existait pas.
Oui. Et là, ce qui n'existe pas, c'est évidemment cette, on va dire, composition florale, Marion Gréber, qui est extravagante, au fond, dans ses rapprochements. cela renforce votre manière de regarder la peinture florale, non pas comme une botanique, non pas comme voilà un inventaire strict, mais véritablement comme une fantaisie.
Oui, comme une fantaisie et aussi, je crois, comme quelque chose de beaucoup plus profond encore, qui est une certaine relation au temps. La particularité de la peinture qui nous montre des fleurs, c'est qu'elles sont éternellement vives dans leur floraison et qu'elles ne fanent pas. Et en même temps, elles portent en elles la mémoire de leur avant et de leur après, et notamment quand elles vont faner. Il y a une des choses qui me frappe le plus dans cette œuvre du printemps, c'est le fait que la peau aussi soit composée de fleurs et de pétales. C'est une chose qu'on va retrouver aussi dans des portraits plus tardifs de Flora en 1590 et un autre en 1591, comme si la peau était couverte d'un tatouage floral. Et ce que je trouve très beau, c'est que quand on regarde l'œuvre de près, on voit bien qu'il s'agit de fleurs. Mais plus on s'éloigne et plus on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'une craquelure en surface de la peinture. Et je trouve frappant qu'il ait réussi là à faire tenir ensemble, dans les différents points de vue, de près ou de loin, les différentes temporalités de la floraison, à la fois quand elles sont fraîches et quand elles vont dépérir et faner.
On avait parlé du trompe-l'œil dans notre émission Allons-y voir, mais là c'est plutôt un trompe-la-main. C'est-à-dire qu'on a envie de s'approcher, et d'une certaine manière, s'approchant, ce sont les contours qui s'estompe, et ça, vous le disiez, c'est la dynamique même de l'œuvre, Jeannette Zwingelberger, cette dynamique dans le printemps, ou aussi, puisque vous en avez parlé, vous aviez commencé par là, dans Flora.
Oui, chez Flora, on sait qu'il y a 80 variétés de plantes qu'on a réunies. Donc, il y a aussi cet aspect, je dirais, scientifique. Donc c'est aussi cette dimension naturaliste qui me semble importante.
Dimension naturaliste, Philippe Malgouir, qui rend compte de ce milieu intellectuel et scientifique de la cour des Habsbourg d'une manière générale, et des sciences de la nature qui sont des sciences de l'observation.
L'histoire naturelle est une science nouvelle à cette date, en tout cas en tant que science pré-expérimentale et qui se contente pas de répéter ce que disent les bestiaires médiévaux ou les autorités antiques. Mais l'observation pose la question pour les artistes du rapport qu'ils entretiennent avec le monde visible. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arbitraire de l'artiste ne se place plus dans la manière... comme le maniérisme avait pu le faire en disant « je fabrique des images indépendamment de ce qui existe dans le monde », mais avec l'idée qu'il y a une vérité dans cette image et que cette vérité repose dans l'exactitude de l'imitation, alors que l'invention va se déplacer ailleurs. Et de voir comment la peinture du XVIIe siècle va être ensuite obsédée par la vérité, le vérisme, le naturalisme, ou ce qu'on veut, que ce soit de Caravage ou Rembrandt, c'est tout de même extraordinaire que de voir les prémices de cette réflexion sur le rapport des artistes à la réalité et en quoi réside l'invention dans l'observation, se faire sous nos yeux par des artistes de cette génération.
D'ailleurs, vous citez dans votre livre « La science de l'émerveillement » Galilée, parce que on est bien évidemment dans cette logique du réel, de sa prise en compte par la raison. Plus éloignées des choses à imiter seront les moyens par lesquels on imite, plus prodigieuse sera l'imitation. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a au cœur du plaisir esthétique une réflexion sur ce qui est observable et la matière même de l'imitation.
Absolument.
Alors, vous savez que nous avons un ami ici, dans cette émission, c'est Mathieu Pottebonneville qui, inlassablement philosophe et directeur du département culture et création de Beaubourg, nous envoie des cartes postales, et celle qu'il vient de nous envoyer, je crois, va relancer notre conversation.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, De Mémoire de Rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. C'est de Fontenelle, non? J'avoue, je ne sais plus très bien. Il faut dire que, voici quelques jours, le quotidien Le Monde a publié un long article intitulé « Comment le confinement de 2020 a profondément altéré notre mémoire et nos souvenirs ». La crise du Covid, expliquait cette enquête, a altéré nos capacités mnésiques. La suspension du temps social a écorné notre aptitude à retenir les noms ou à savoir quel jour nous sommes. Nous voilà frais, ou fraîches comme des roses. Et justement, ce sont des roses fraîches qui me reviennent lorsque je pense à cette période. Celles qu'avait piquées dans de belles compositions florales l'artiste canadienne Kapwani Kiwanga. Pour l'œuvre présentée au Centre Pompidou en octobre 2020, où elle remporta brillamment le prix Marcel Duchamp. Il y avait là des roses, donc, mais aussi toutes ces espèces de fleurs coupées, arômes, chrysanthèmes, amaryllis, façonnées en bouquets ronds, ramassées en gerbes, présentées sur des socles blancs ou tressées en une longue guirlande au plafond de la galerie. Kapwani Kiwanga présentait ainsi sous le titre « Flowers for Africa », un travail initié 7 ans plus tôt lors d'une résidence au Sénégal. Elle y avait entrepris de reproduire systématiquement les arrangements floraux figurant sur les photographies des événements diplomatiques qui ont ponctué l'histoire des indépendances africaines. Conférences, cérémonies et signatures, intronisations et traités, tout cela se dit avec des fleurs. Ici, un ornement de table, là un élément d'arrière-plan silencieusement posé pendant que s'échangent des paroles officielles et définitives. Pourquoi extraire les fleurs de ces images et faire reconstituer à l'identique ces bouquets de circonstances? Ce geste de l'artiste pointait par antiphrase le processus sanglant d'accession à la souveraineté dont ces compositions fragiles, gaies, colorées formaient le couronnement et la dénégation. C'était aussi une façon d'intervertir dans l'archive les dimensions pérennes et éphémères, comme si, pour lutter contre l'amnésie postcoloniale, il fallait s'accrocher à ces corolles frémissantes, à ces pétales depuis longtemps tombés, à la splendeur minuscule d'une floraison dont la brièveté même pourrait aider à retenir le souvenir, parce que ces fleurs-là étaient là ce jour-là. Et puis, l'œuvre de Kiwanga renouait bien entendu avec le genre des vanités. L'artiste ayant spécifié que les fleurs ne devraient pas être changées pendant les 3 mois de cette exposition automnale, celle-ci était vouée à être évolutive à mesure que faneraient les bouquets, que se dessécheraient les guirlandes, comme s'est fané peut-être en Afrique l'enthousiasme des indépendances. De ce point de vue, nous ne fûmes pas déçus. Quelques jours seulement après le vernissage, le gouvernement annonça un nouveau confinement, moins rigoureux que le premier, presque oublié aujourd'hui. Il impliqua 7 mois durant la fermeture de tous les lieux culturels. Traversant 3 saisons au lieu d'une, les fleurs de Kapwani Kiwanga demeurèrent en place, recourbant leurs tiges, disséminant leurs graines et leurs pollens, s'environnant de nuées de moucherons jusqu'à nécessiter au retour une sévère désinfection de la galerie. De Mémoire de Rose, elles ne virent plus un jardinier. Mais je ne peux m'empêcher de voir, moi, dans le destin de cette exposition, dans la solitude silencieuse de ces fleurs coupées, le plus splendide monument qui soit à cette période dont, décidément, nous peinons à nous souvenir.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Marion Grébert, ce que vient de dire Mathieu Bodebonneville, une fois de plus, trouve sa résolution, ou en tout cas la suite de la conversation dans votre livre « Pourquoi les fleurs ?» Être devant les fleurs, c'est être devant le temps, et devant aussi l'inquiétude du moment où elles vont se faner.
Oui, et ce que j'entends là aussi, c'est être devant des formes de pouvoir. Enfin, c'est ce qu'interroge cette œuvre qui vient d'être décrite là. C'est que nous pouvons penser que Les fleurs, dans leur ordre naturel, sont indifférentes aux affaires humaines, terrestres, politiques, économiques qui nous concernent. Et en fait, nous en faisons un usage dans nos cultures qui fait que les fleurs sont contraintes de prendre sans arrêt part à ce qui nous arrive dans le temps de l'histoire. Et c'est la grande contradiction qu'elles contiennent et qui est très belle.
Et voilà peut-être, Philippe Malguir, pourquoi aussi vous résistiez à cette opinion commune qui veut que devant Archimboldo, on soit devant un panégyrique. Parce qu'en somme, ces têtes composées de souverains, elles nous donnent à voir la décomposition à venir. Nous savons bien que tous ces fruits vont pourrir et que toutes ces fleurs vont faner. Donc c'est un spectacle de la décomposition plus que de la composition.
Mais je crois qu'à aucune autre période dans l'art en Europe, on a eu autant conscience du fait que la vie, c'était l'entropie. Et que toute chose qui aspirait à montrer le processus de la vie devait intégrer cette idée du changement, et évidemment d'un changement qui est dans une seule direction, qui est celle de la destruction, peut-être pour une possible transformation. Et si l'on pense à cela, à cette angoisse existentielle pratiquement qui s'incarne dans ces choses naturelles, je pense que c'est une clé qui permet de comprendre beaucoup d'aspects de l'art et de la pensée, et même de la pensée scientifique de cette période.
Jeannette Zwingenberger, vous pensiez à Montaigne aussi regardant ces œuvres.
Je voudrais surtout souligner l'aspect anthropomorphe. Thomas da Costa Kaufmann a beaucoup souligné que ce sont des portraits des empereurs qui, quelque part, incarnent l'éternité, c'est-à-dire qui, quelque part, garantit à travers les cycles des saisons une certaine paix, une certaine... Et c'est peut-être ça, cet aspect anthropomorphe, mais je vous pose la question. Pourquoi la tête? Qu'est-ce que représente la tête?
Je ne suis pas tellement d'accord avec cette idée da Costa Kaufmann qui a l'air d'être les interprétations que les archéologues donnent à des images de pharaon égyptien, et il n'y a aucun texte contemporain qui corroborerait ça, où l'empereur est vu comme une créature infiniment mortelle et oui. fragile, surtout Rodolphe, qui vivait de cette manière tellement retirée, sans aucune pompe, dans le secret pratiquement de ses collections et en compagnie de ses artistes.
Et Montaigne alors?
Alors, à ce moment-là, je suis d'accord avec vous, c'est un jeu de masques qui oscille entre l'un, donc cette tête, et le multiple. Alors, comme vous savez, Flore, donc par rapport au texte de Flore, on dit « suis-je Flore ?»« Comment de Flore »« Ai-je avec le visage le rire ?» Et donc, Michel de Montaigne, le contemporain d'Archimboldo, il compare l'individu à un bouquet de fleurs. Comment quelqu'un pourrait dire de moi que j'ai seulement fait ici un amas de fleurs étrangères, n'ayant fourni du mien que le filet à le relier. Donc, qui sont ces personnes?
Je suis né en mai, c'est moi le printemps. D'un ventre épais, j'ai foutu le camp. Mais scarifié, mais en pleurant, mais sacrifié. Né en passant, je suis né en mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé, ouais, mais pourtant j'ai déchiré à grands coups de dents le fil d'acier m'emprisonnant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps, moi qui rêvais d'hiver tout. Ange de nez. quand je m'en irai, quand je serai pas autant, je n'ai pas de regrets. Soyez contents. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. Moi qui espérais des anges troublants. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. D'un ventre épais, j'ai foutu le camp. Beau le printemps, non? Il est tout petit pour des gens qui s'aiment comme nous au printemps. Il est beau le printemps, je suis né en mai. Moi aussi, c'est beau le printemps.
Ben oui, c'est beau, et puis on écoute avec émotion Daniel Darc. Nous sommes sur France Culture, vous écoutez Allons-y voir, et nous regardons Archimboldo. Et pourquoi ça nous fascine tant, au fait, Jeannette Singenberger?
C'est l'acte de la création qui est mis en évidence par une esthétique de paradoxe. C'est la laideur revendique la beauté, les objets réels constituent une œuvre illusoire, les objets quotidiens, banals, deviennent tout d'un coup étranges, le populaire constitue un portrait noble des merveilles.
Mmh. Je vous ai volé au début de cette émission cette anecdote, Philippe Malguir, du poisson, enfin des poissons. Et la question, au fond, c'est de savoir, si on regarde Archimboldo, est-ce que ça nous amène à regarder le monde ou est-ce que ça fait écran au monde? Est-ce que la réalité des choses est tout entière représentée ici ou est-ce que c'est un paradoxe de la diversion, en somme, qui est donné à voir?
Moi, je penserais plutôt que c'est une invitation à regarder les légumes dans notre bac
les vrais
frigo,
légumes.
Les vrais ouais. légumes. Comme d'ailleurs, quand on voit une chaise cassée dans la rue et qu'on connaît l'Arte Povera ou une affiche déchirée, on ne peut pas s'empêcher. L'art nous a appris à regarder des choses que nous ne regardions pas.
Ou Andy Warhol, d'ailleurs.
Ou Andy Warhol, les boîtes de soupe, ou un très curieux témoignage de Jean Lépien, qui a été un Allemand élève de Kandinsky au Bauhaus, et adolescent, il dessinait des choses très soignées. Il rencontre un peintre et le peintre lui dit « Mais il faut pas dessiner tout ça, c'est déjà des objets esthétiques. Il faut dessiner. Je vais vous montrer des endroits incroyablement laids et on va aller dessiner des lignes de chemin de fer, des transformateurs. Des... Mmh. » Donc c'est ça, c'est regarder ce qu'on ne regarde pas pour renouveler non seulement que l'artiste se renouvelle, mais renouveler le regard que les spectateurs ont sur le monde à travers l'art.
Sur France Inter, en 2019, dans l'émission de Jean Lebrun, La Marche de l'Histoire, Romain Bertrand parlait de son livre Le Détail du Monde. Écoutez-le.
La question, c'est de singulariser. Le palmier ou le cocotier chez Bernardin de Saint-Pierre. L'arbre dans la forêt. Et puis l'oiseau dans la nuée.
Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, ce très ancien savoir qui continue à flamboyer ou qui jette ses derniers feux avec Bernardin de Saint-Pierre, Alexandre de Humboldt, Wallace encore peut-être, et puis qui s'éteint, qui s'étiole, eh bien ce très ancien savoir précisément était porté par une et même plusieurs philosophies des singularités. L'idée qu'il fallait saisir chaque être dans l'instant de son surgissement, dans l'instant de son apparition, et c'est bien ça qui fait la quête poétique aussi de Francis Ponge et d'autres, aussi bien de Fernando Pessoa à la même époque, de D.H. Lawrence. Il ne s'agit pas de décrire la fleur jaune, quelle que soit son espèce, mais cette fleur jaune, ce jour-là, dans cet éclat-là.
Oui, c'est ce que disait Romain Bertrand dans ce livre important qui parle d'un savoir ancien, qui est un savoir de l'observation et de l'émerveillement face à la singularité. C'est d'une certaine manière le sujet de votre livre, Philippe Malguir, qui, avec pas seulement des peintres autour de Rodolphe II, mais Kepler, mais des savants, et qui, d'une certaine manière, redéfinit ce qu'on appelle la curiosité.
Tout à fait. La curiosité était opposée au savoir. Il y a celui qui sait et il y a celui qui veut s'appliquer à apprendre en regardant. Et ça, c'est le curieux. Et c'est lui qui qualifie les objets de son enquête. Et ce sont ça les curiosités. Elles ne sont pas curieuses en elles-mêmes, comme ces fruits ne sont pas intéressants en eux-mêmes, mais par le regard qu'on leur porte.
Et ça, vous le montrez bien, d'une certaine manière, le paradoxe, ou plutôt le malentendu, je dirais, c'est que, à partir du moment où Archimboldo a été, on l'a dit, redécouvert par les surréalistes, on plaque sur lui une image du cabinet de curiosité, comme un désordre, un fatras, enfin, le cabinet de curiosité d'André Breton, mais c'est pas du tout ça, c'est une mise en ordre, en fait, du monde.
Absolument. Et d'ailleurs, chez Rodolphe, tout était rangé dans des placards, dans des armoires, dans des boîtes, avec des numéros, et il y avait un inventaire, et on évitait justement de mélanger. Il fallait mettre en ordre tout ce monde dans sa profusion.
Et donc, c'est pas, au fond, cette fantaisie qu'on veut voir de manière enfantine qui est donnée à voir chez Archimboldo, Jeannette Zwingenberger.
Je voudrais souligner, c'est une œuvre interactive, et c'est pour ça qu'elle nous parle encore aujourd'hui.
Pourquoi interactive ?
C'est-à-dire le spectateur, il est surpris, il découvre selon l'angle de vue d'autres choses.
Il s'avance, il circule, il
oui,
voit...
Oui, c'est différentes lectures, immédiateté, vision de l'image, et puis le texte. Ce que Roland Barthes a justement souligné, cet aspect rhétorique de l'œuvre, où les signes deviennent un texte, in ars combinatoria.
Alors, il faut peut-être préciser, Philippe Malguir, ce texte de Roland Barthes, il décrivait... Archimboldo comme magicien et comme rhétoricien, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, cet art des déplacements, des métaphores au sens propre, eh bien, elle nous permet d'avancer, de reculer devant la matière picturale et de nous faire piéger par ces illusions. C'est bien ça. Donc, on est au cœur de la rhétorique au fond du XVIe siècle.
Absolument. Et le plaisir vient du fait que l'imitation se dénonce.
Oui.
Elle-même, puisque on nous dit c'est l'empereur et on voit très bien que ce sont des légumes. Et l'émerveillement produit vient de ce décalage, de cet oxymore que vous avez absolument décrit.
Ce n'est un empereur qu'à une certaine distance.
Qu'à une certaine distance. Et évidemment, on voudrait qu'il y ait un grand poète ou quelqu'un avec assez d'imagination pour nous décrire la tête de Rodolphe quand on a ouvert la caisse et qu'il a vu apparaître sa propre image sous la forme de ses légumes. Parce que c'était ça, la rencontre. C'était le prototype et son image dissemblable.
N'oublions pas effectivement que lorsque Archimboldo peint le Vertumné, ben c'est pour un souverain qui n'est pas là, qui est à Prague.
Et je pense qu'il y avait quand même un saut périlleux arrière à réussir, puisque je pense que le fait qu'il y ait un petit livre pour accompagner le tableau dit quelque chose aussi, pas seulement de cette culture de cour, mais du risque qu'il y avait tout de même à proposer cette image dissemblable et qui pouvait être interprétée de manière un petit peu irrévérencieuse. Mais Archimboldo a été anobli après la réception de ce tableau, donc...
Oui, c'est donc qu'il y avait quand même quelque chose qui a atteint son but, même si, au fond, j'y reviens, Jeannette Zwingenberger, vous parlez d'Archimboldo, vous lui avez consacré beaucoup de travaux, comme d'un précurseur qui, d'une certaine manière, va se trouver vraiment à l'aise dans un siècle qui n'était pas le sien, bien plus tard. Au fond, c'est, d'une certaine manière, une peinture qui n'a pas de postérité immédiate.
Il crée une nouvelle alliance entre nature et la culture, avec ces êtres hybrides.
Mais comment il est reçu immédiatement ? Parce que il y a tout cet corpus de littéraire qui est d'une certaine manière qui est devenu inséparable d'avec la peinture que l'on regarde. Mais il n'est pas dit que au fond c'est notamment toute cette poésie ne force pas le sens de cette œuvre.
Il faut vraiment se mettre à cette époque, c'est-à-dire Archimboldo était le scénographe, il organisait des banquets, des tournois, et ces tableaux en font partie. Et donc, avec des poèmes chantés parfois et qui convoquent tous les sens. Et pour moi, c'est aussi les merveilles qu'on rapportait des continents, qu'on découvrait.
En tout cas, c'est une peinture qui émerveille, mais qui met en mouvement, qui, d'une certaine manière, nous fait voyager. Marion Gréber, ce que vous avez fait à partir du motif floral, c'est un voyage. Et vous l'appelez un autre voyage en Italie. Et ça m'intéresse aussi, cette question du déplacement. Vous avez parcouru l'Italie jusqu'à Pasolini. C'est-à-dire jusqu'à effectivement un contemporain où, alors là pour le coup, c'est pas seulement que les fleurs se fanent, mais c'est que les lucioles s'éteignent et que il y a dans cette question florale, on l'avait vu, on l'a vu, on l'a entendu avec Mathieu Pot-Bonneville, aussi une question politique.
Aussi une question politique, et puis vous parlez de Pasolini et des lucioles qui s'éteignent, donc il y a aussi la question de la rareté, de la raréfaction des fleurs, de la façon dont le XXe siècle et les poètes particulièrement, je parle en effet de Pasolini, je parle de Paul Celan, d'Ingeborg Bachmann, ont approché, regardé, parlé des fleurs avec un regard politique engagé contre les totalitarismes qu'ils ont connus dans le temps qui leur était contemporain. Et je peux répondre à votre invitation en rebondissant sur ce que l'on a entendu de Romain Bertrand sur la nécessité de singulariser les spécimens des fleurs que l'on voit, et vous insistez sur la dimension de voyage qu'il y a dans le livre. Et en effet, je crois que ce livre et cette démarche appellent à regarder les fleurs chaque fois dans leur singularité, comment elles apparaissent dans un paysage et un moment précis. Et pour revenir à Archimboldo, dire aussi que quand il peint le printemps, cela fait déjà trois siècles que les herbiers, depuis dans l'héritage de l'Antiquité, ont connu un renouveau. Et c'est ce mélange qui est intéressant entre à la fois la constitution d'herbier pour en arriver à l'élaboration d'un savoir scientifique et la mémoire de chaque fleur que l'on a accueillie et qui est un geste singulier dont il faut conserver le souvenir.
Oui, parce que ce que montre dans ce livre Romain Bertrand, c'est que cet art perdu de l'observation, de la description et aussi de la nomination, il s'oppose à la science anatomique, celle qui incise le vivant et qui tue, au fond, pour connaître. Là, on est dans une science de l'observation qui laisse vivant le monde qu'elle donne à voir.
Oui.
C'est quand même fondamental.
Oui, et je crois, si mon souvenir est bon, que le livre de Romain Bertrand va aussi contre la trop grande consommation qui nous fait oublier la spécificité et la rareté de chaque chose. Et c'est en ça aussi que notre approche des fleurs peut être politique, parce qu'elle nous rappelle à leur singularité hors de tout mercantilisme.
C'est pour ça peut-être que face à Archimboldo, Philippe Malgouir, on est inévitablement encore toujours des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de d'émerveillement spontanément enfantin qui nous saisit face à cette crudité, simplicité, évidence du monde.
Absolument, et pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la manière dont nous y reflétons notre propre finitude, c'est une finitude dont effectivement les jardiniers ont l'expérience, si les roses ne l'ont pas, c'est qu'on sait combien tout cela est bref et se déroule sous nos yeux, et c'est ce qu'on reconnaît, ce devenir dans lequel on se projette si facilement.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Marion Gréber, Jeannette Zingenberger et Philippe Malgouir. Les références de vos ouvrages sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Jeanne Agrapard, à la prise de son Olivier Arnay, à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes, merci à vous tous.